le psaume 133 est un petit joyau dans le psautier et même dans la Bible. C'est un texte extrêmement court, extrêmement beau, lumineux, et je dirais même un des textes très extraordinairement évangéliques, comme vous allez l'entendre. Le titre lui-même, d'ailleurs, est tout un programme, titre malheureusement trop souvent omis quand les gens lisent ce psaume, voire même dans les éditions des psaumes ou des Bibles. Le titre, c'est « Cantique pour monter de David ». Cantique pour monter, on a raconté plein de choses là-dessus, que c'était les psaumes qu'on chantait dans les pèlerinages. Tout ça, c'est du bavardage. Peu m'importe, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des cantiques pour s'élever. Et donc le but, c'est de s'élever à Dieu, de monter vers Dieu. Et ce psaume nous est dit de David. Là, excusez-moi, ce ne sera pas la dernière fois dans cette prédication, mais je vais faire preuve un peu d'une science ridicule. C'est que David, en hébreu, c'est un mot qui veut dire l'amour. Et donc, admettons que ce psaume ait été plus ou moins inventé par le roi David. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est un chant d'amour. C'est le psaume de l'amour. Et ce psaume commence tout simplement par une affirmation qui n'est pas bien compliquée, qui est toute belle et toute simple, qui dit oui, qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Et ainsi, nous avons là, même à première lecture, l'importance de vivre l'amour fraternel, vivre unis ensemble comme des frères, l'amour de son prochain, c'est la chose la plus belle, la plus bonne, la meilleure plutôt et la plus agréable. Et c'est même plus que ça, puisque le psaume se conclut en disant « C'est là que l'Éternel donne la bénédiction et c'est là qu'il donne la vie pour l'éternité. » Et donc vous voyez que ce psaume dit « Voilà, il n'y a rien d'autre pour s'élever à Dieu que l'amour fraternel, c'est à la fois beau, bon, agréable. C'est aussi la source de la bénédiction de Dieu et c'est aussi la source même de l'éternité. » Quand on a dit ça, on a tout dit. Donc on pourrait dire, s'il y avait un seul psaume à emporter sur une île déserte, eh bien, c'est bien celui-là. Et pourtant, ce psaume, s'il est beau par son premier verset et par la fin du dernier verset, reste assez mystérieux quant à ce qui se passe au milieu, entre le début et la fin. Il s'y trouve en effet là tout un fatras d'images hétéroclites, un petit peu mystérieuses, où il est question d'Hermon, de barbe d'Aaron, de bord de vêtements, d'huile. Et toutes ces images, j'en ai conscience, sont un peu mystérieuses pour le lecteur commun. Et je me propose de les décrypter avec vous pour voir ce que, justement, elles peuvent ajouter. Cela dit, ne vous faites pas de soucis. Ce que je vais faire là, c'est un petit peu de la virtuosité biblique. Et probablement que vous n'auriez jamais pu trouver tout ce que je vais vous dire maintenant sur ces différentes images, mais ne vous découragez pas, parce que, comme je viens de vous le montrer, on n'est pas obligé de tout comprendre quand on lit la Bible, et rien que d'avoir compris le début et la fin, ça suffit amplement, et vous avez déjà l'essentiel de ce qui est dit dans ce psaume 133. Et donc le psaume dit, précisons les choses, il dit cet amour fraternel, c'est comme l'huile la meilleure qui est répandue sur la tête. Alors que ce soit comme une huile versée sur nous, ça c'est une image encore que peut-être un lecteur assidu de la Bible peut comprendre. Parce qu'on sait en effet que dans l'Ancien Testament, l'usage était de verser de l'huile sur un certain nombre de personnages, ce que ça s'appelait l'onction messianique. Celui qui avait reçu de l'huile était appelé celui qui est oint, ou il était appelé le Messie, où il était appelé le Christ, puisque « oint », « messie » et « Christ », c'est un seul même mot, en français, en hébreu ou en grec. Et on versait de l'huile sur un certain nombre de personnages pour dire qu'ils étaient revêtus de la présence de Dieu. Parce qu'en effet, l'huile était une belle image de la présence de Dieu. L'huile, c'est source de lumière, parce qu'à l'époque, il y avait des lampes à huile. Et donc, certainement, l'huile est source de lumière, comme nous pouvons dire « l'Éternel est ma lumière et mon salut ». Ou comme nous pouvons dire, Jésus a pu dire qu'il était la lumière du monde. L'huile, c'était aussi une source de nourriture. C'était une source particulièrement riche. Et donc, de même, la présence de Dieu est une nourriture dans nos vies. Et ça, le Christ l'a repris souvent en disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » où il a dit lui-même « Je suis le pain vivant descendu du ciel » ou encore « Prenez, mangez ceci mon corps ». Donc certainement, cette présence de Dieu est une source de nourriture pour nos âmes. Et puis l'huile, enfin, était ce qui servait à l'époque pour soigner les plaies, calmer les douleurs et la souffrance. Et donc cette huile était aussi une source de vie et de consolation. Et ainsi l'huile a été prise comme une image de la présence de Dieu, source de lumière, source de nourriture et source de vie. Et on la versait sur un certain nombre de personnages importants pour dire, eh bien, ces personnages importants, ils vivent revêtus de la présence de Dieu. C'étaient les rois, les prêtres et les prophètes. Et donc les rois étaient supposés régner, revêtus de la présence et de l'autorité de Dieu. Et les prêtres également devaient faire leur sacerdoce revêtus de cette présence de Dieu. Et les prophètes étaient supposés parler, revêtus de cette présence et de cette autorité de Dieu. Et donc cette huile, source, signe de la bénédiction de Dieu, comment pouvons-nous recevoir, je dirais, cette dignité de pouvoir agir comme pour Dieu, de pouvoir parler comme Dieu, de pouvoir bénéficier de cette bénédiction de Dieu? Eh bien, nous dit le psaume, c'est très simple, il suffit de vivre l'amour fraternel. Et l'amour fraternel est comme une huile qui est versée sur nos têtes et qui nous donne, je dirais, toute la présence de Dieu et toute sa bénédiction. Simplement, le psaume précise encore la chose en disant « c'est comme l'huile la meilleure, donc admettons, qui est répandue sur la tête et qui descend jusque sur la barbe ». Alors là, ça se complique un petit peu. On pourrait dire, c'est logique, l'huile elle est versée sur la tête, elle va sur la barbe et puis elle dégouline sur le vêtement, mais il est évident que l'image est peut-être un peu plus subtile que cela. La tête, on peut le comprendre, et pas seulement en connaissant l'hébreu, parce que la tête, en hébreu comme en français, c'est non seulement, c'est une partie du corps, mais la tête c'est aussi le début, le commencement, comme on parle de la tête d'un train. Un train, c'est idiot, ça n'a ni queue ni tête, un train, mais pourtant la tête d'un train, c'est le début du train, ou alors l'entête d'un livre. Et donc la tête, en hébreu, rosh, c'est le commencement. C'est d'ailleurs le premier mot de la Bible, au commencement était, au commencement Dieu créa, et bien ce mot commencement dans l'hébreu c'est en tête. Et donc la tête c'est le commencement. Quant à la barbe, alors là je suis obligé de faire une deuxième petite leçon d'hébreu, zaken, la barbe et c'est aussi la vieillesse, parce que les vieillards à l'époque portaient des grandes barbes. Et donc on peut dire que cette huile, cette bénédiction de Dieu, elle est versée de la tête jusqu'à la barbe. C'est-à-dire du commencement de la vie jusqu'à sa mort, du début à la fin de l'existence. Et toute l'existence entière, je dirais peut-être illuminée par la pratique de l'amour fraternel, et c'est valable pour tout le monde, jeunes ou vieux, de la naissance jusqu'à la mort, je dirais, l'amour fraternel est la source même de la bénédiction. Simplement, il y a dans ce psaume deux barbes. Alors ça, c'est encore un autre mystère. Puisqu'en effet, la barbe apparaît deux fois. Le texte dit, c'est comme l'huile la meilleure qui est sur la tête, qui descend sur la barbe, virgule, sur la barbe d'Aaron. Alors la première barbe, je vous l'ai expliqué. La deuxième barbe, quelle est-elle? Eh bien, le texte nous dit que c'est la barbe d'Aaron. Alors là encore, comme dans beaucoup de textes bibliques, pour pouvoir le comprendre, eh bien, il faut connaître sa Bible et il faut savoir qui est Aaron, sinon on ne peut pas comprendre. Alors ça, vous pouvez le trouver, vous cherchez dans un index biblique et vous verrez que Aaron était, si je ne me trompe pas, le frère de Moïse, et c'était surtout le chef des prêtres. C'était lui à qui a été confiée la tribu des Lévites, qui était responsable du sacerdoce dans le peuple d'Israël. Et donc Aaron, c'est l'image de la prêtrise. Alors le fait d'être prêtre, c'est la fonction qui permet de mettre en relation avec Dieu. Autrement dit, Aaron est l'image même de la relation à Dieu. Et si l'on parle là de la barbe d'Aaron, c'est parce que zaken, toujours ce mot hébreu de la barbe, veut dire la barbe, ça veut dire la vieillesse. Et ça veut dire encore une troisième chose, et c'est peut-être ça dont il est question là. Ça veut dire aussi la force et la puissance. Peut-être parce qu'on imaginait à l'époque que les hommes très barbus, c'était un signe de virilité et que c'était des hommes forts et puissants. Et donc je pense que la barbe d'Aaron, c'est la puissance de la relation à Dieu. Et qu'ainsi, l'amour fraternel, c'est ce qui verse de l'huile sur la puissance et sur la force de notre relation à Dieu. Notre relation à Dieu est simplement, je dirais, baignée dans l'huile par l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, c'est ce qui illumine et qui renouvelle notre relation à Dieu. Et c'est là une chose, je dirais, fondamentale. Notre relation à Dieu, elle est accomplie dans l'amour fraternel. Mais vous disais-je, cette huile, elle continue de descendre, et elle descend jusque sur le bord du vêtement. Là encore, l'image n'est pas très mystérieuse. Il suffit, là aussi, d'avoir lu la Bible, et de savoir qu'en Nombre 15, verset 37, il y a un commandement qui dit que les Juifs doivent porter des franges sur le bord de leurs vêtements. Ce commandement, aujourd'hui, il est encore appliqué par un certain nombre de Juifs traditionnalistes qui se voient donc obligés de laisser leur chemise en dehors du pantalon avec des petites franges qui pendent des bords de la chemise parce qu'ils croient qu'il faut appliquer les commandements à la lettre. Mais néanmoins, ce commandement est intéressant pour le sens qu'il comporte. Parce que le commandement du livre des Nombres dit que les Juifs doivent porter des franges sur le bord du vêtement, franges un peu compliquées, où il y a, je ne sais plus, 10 nœuds et puis 3 brins et ceci, cela, et que ces franges sont là pour leur rappeler les commandements, et que ces franges sont là pour rappeler la volonté de Dieu à leur égard, et que donc chaque fois qu'ils touchent ces franges, ça doit leur dire « Ah oui, c'est vrai, il y a des commandements, il y a une loi, et il y a une volonté de Dieu à mon égard. » Ces franges, donc, représentent l'obéissance à la loi. Et si cette huile, après avoir illuminé toute la vie, après avoir illuminé toute la relation à Dieu, descend jusque sur le bord du vêtement, cela veut dire que cet amour fraternel arrive même à accomplir l'obéissance à la loi. Et ça, c'est ce que dira le Christ, d'ailleurs. Donc, vous savez, toute la loi et les prophètes se résument dans ce seul commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Eh bien, là, tout le commandement de Dieu, toute la loi, toutes les franges de votre vêtement se trouvent accomplies dans l'amour du prochain. Ces franges de vêtements, d'ailleurs, on les retrouve dans l'Évangile. À un moment donné, vous savez, il y a une femme qui est malade et qui est guérie en touchant la frange du vêtement de Jésus. Eh bien, c'est assez étonnant parce que certainement qu'il y a là aussi une piste que vous pourriez explorer de se dire qu'est-ce qui guérit cette femme ? Eh bien, c'est qu'elle touche du doigt le commandement même que donne le Christ, qui est celui d'aimer son prochain comme soi-même et d'aimer Dieu de tout son cœur. Parce que les franges du vêtement de Jésus, eh bien, c'est bien cela, c'est la nouvelle loi qu'il donne. Et donc voilà, tout ce que nous trouvons, cette huile qui descend, nous rappelle que si nous pratiquons l'amour du prochain et l'amour de Dieu, ça donne la plénitude de toute notre vie, quel que soit notre âge, de notre relation à Dieu et aussi de notre obéissance à sa parole. Et puis l'image continue. Ce coup-ci, on abandonne l'huile et on prend une autre image, qui est aussi d'ailleurs souvent une image de la présence de Dieu, c'est la rosée. Dit le psaume 133, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. La rosée, ça c'est une autre image, bien belle aussi de la présence de Dieu, image d'une source de vie tout simplement, plus simplement la bénédiction, mais c'est la source de la vie. La rosée, c'est ce qui transforme un désert en un jardin fleuri et verdoyant. La rosée, c'est cette source de vie gratuite, offerte à tous. Tout à l'heure, dans l'huile, il y avait quelque chose d'un peu élitiste. L'huile, elle est donnée à certains. On ne donne pas l'onction d'huile à n'importe qui. Mais là, la rosée, c'est ce qui est offert à tous. C'est l'image de la grâce universelle. Parce que la rosée arrose aussi bien le jardin du juste que celui de l'injuste. La rosée, l'eau en petite quantité, c'est l'image que les chrétiens ont gardée pour le baptême, bien sûr. Quand on met un peu d'eau sur la tête d'un enfant pour dire « la présence de Dieu t'est offerte comme une source de vie » qui est gratuite et universelle. Et donc, autrement dit, l'amour fraternel, eh bien oui, c'est comme une rosée dans le désert de nos existences. Si nous n'avons pas d'amour dans notre vie devient une sorte de terre craquelée, desséchée et stérile. Et s'il y a une bonne rosée qui vient sur notre existence, par l'amour, par l'ouverture à son frère, eh bien notre vie peut devenir un jardin frais, vert et agréable. Ce qui est étonnant, non plutôt, ce qui est essentiel, c'est que cette rosée, elle descend, nous dit-on, jusque sur le mont Sion. Le mont Sion, c'est la montagne du Temple, hein, c'est la montagne de Jérusalem. C'est donc le lieu même de la relation à Dieu. Donc d'accord, cette rosée, elle vient sur nous et elle vient même, je dirais, rendre vivante et verdoyante notre relation à Dieu. Mais ce qui est étonnant, c'est que cette rosée, elle vient de la montagne de l'Hermon. Alors là, il a fallu que je recherche un peu dans ma Bible aussi pour savoir ce qu'était l'Hermon. Et l'Hermon, j'ai découvert que c'était la frontière nord-est du pays d'Israël. C'est la montagne qui est à la limite du territoire d'Israël, et c'est ce qui fait la frontière avec les étrangers. Et avec des étrangers pas très sympathiques d'ailleurs, hein, parce qu'au-delà de l'Hermon, c'est là qu'habite Og, le roi de Bazan, peut-être un type effroyable, et puis des tas de gens très méchants. Et donc l'Hermon, c'est vraiment la frontière avec l'extérieur, la frontière avec ceux qui précisément ne sont pas mes frères. Alors ça, c'est intéressant, parce que jusqu'à présent, nous sommes restés dans l'amour fraternel. Oui, c'est bien d'aimer ses frères, de vivre entre frères, de rester entre soi. Quelle merveille! Et là, tout à coup, on nous dit, mais eh bien, c'est bien aussi d'aller voir un peu aux frontières. Et peut-être de ne pas rester qu'en contact avec ses frères, mais d'avoir le courage de sortir de soi, de s'ouvrir pour aller vers les autres, et pour aller vers les autres, ceux qui ne sont pas forcément agréables et gentils avec nous d'ailleurs. Je crois en effet que si nous restons repliés sur nous-mêmes, nous sommes contraints à mourir desséchés. Si nous restons simplement entre nous, entre frères, nous sommes condamnés à mourir comme un désert qui ne peut plus rien produire de bon, ni de frais, ni de généreux. Et donc il y a la nécessité de s'ouvrir à l'extérieur. Et quand on s'ouvre à l'extérieur, quand on va vers les frontières, quand on regarde vers celui qui est au-delà, eh bien il y a une source de rosée, une source de vie qui peut dégouliner jusque dans toute notre existence, jusqu'au cœur de notre vie, jusqu'au mont Sion, qui est le lieu de notre relation à Dieu. Sinon, elle vous fera une belle jambe, l'huile qui vous est versée sur la tête. Si jamais vous n'êtes qu'un rameau stérile, qu'un figuier desséché, vous pouvez toujours verser de l'huile dessus, ça ne fera pas grand-chose. Et donc, il est essentiel qu'il y ait cette dimension, justement, d'ouverture à l'autre qui fait comme une rosée qui dégouline depuis l'autre jusque moi. Bon, le Christ dira un peu la même chose aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, quand il dit « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous n'aimez que vos frères, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? Tout le monde aime ses amis, c'est tout à fait logique. Mais vous, dit le Christ, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent, car vous serez ainsi comme votre Père, qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes, sur les bons comme sur les méchants. » Et puis, ce qui est étonnant, c'est que, là encore, dans cette façon de s'ouvrir à l'autre, d'accueillir son ennemi, d'aimer son ennemi au-delà de son frère, eh bien, dans tout ce psaume, dans l'huile comme dans l'eau, il est question de choses qui descendent. Et là, c'est étrange parce que, c'est comme au début, je vous l'ai dit, le titre du psaume, c'est un psaume pour monter. Et voilà qu'un psaume pour monter, il n'y a que des choses qui descendent dedans. Donc un psaume pour s'élever à Dieu, eh bien c'est l'amour fraternel. Et l'amour fraternel, c'est comme l'huile la meilleure qui descend sur la tête, et qui descend sur la barbe, et qui descend sur le bord du vêtement. Et c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon jusqu'au mont Sion. Et donc vous voyez que dans ce psaume, soi-disant pour monter, il n'y a que des choses qui descendent. Ben ça, c'est pas la peine d'avoir fait 20 ans d'hébreu pour le voir, hein. Il suffit de lire avec attention et vous auriez pu vous en rendre compte tout seul. Eh bien ça aussi, c'est un message absolument incroyable. et je dirais infiniment évangélique, parce que l'évangile, c'est non seulement l'amour, certainement, l'amour fraternel, l'amour des ennemis, mais l'évangile, c'est aussi de dire, eh bien, le but de la vie, c'est pas de s'élever à Dieu par une sorte de force personnelle où j'essayerais de me perfectionner, d'être un champion de la foi et de l'amour, mais que s'élever à Dieu, c'est avant tout recevoir. C'est recevoir la grâce, s'élever vers Dieu, c'est ouvrir les bras pour recevoir cet amour de Dieu qui nous est donné, cette présence qui nous est offerte. Et donc voilà, mes frères et mes sœurs, vous voulez vous élever à Dieu, eh bien commencez par recevoir tout ce qui descend. Tout ce qui descend de Dieu, tout ce qui descend de vos frères, de vos sœurs, tout ce qui descend même de vos ennemis, même de ceux qui ne sont pas vos proches. Et tout cela peut vous permettre de vivre et de trouver l'huile et la rosée qui fait vivre pour toujours. Et alors on découvre ce qu'est peut-être aussi le véritable amour. Le véritable amour, ce n'est pas de dire « j'aime tout le monde et on est tous copains ». Mais le véritable amour, c'est peut-être de s'ouvrir à l'autre, de s'intéresser à lui, d'abandonner son égoïsme, de ne pas agir dans son propre intérêt, de se mettre au service. Et quand on comprend ce vrai amour, alors cet amour, eh bien, est comme une bénédiction qui descend sur nous, parce que l'amour, c'est pas non plus un défi qu'il faut se donner à soi-même, d'être capable d'aimer par-delà tous les obstacles, mais aimer, c'est peut-être avant tout recevoir et accueillir, justement. Et l'amour, c'est pas quelque chose que je dois donner, mais c'est une disponibilité, peut-être, que je suis invité à avoir pour recevoir tout ce qui vient de l'autre. Et être aimé, si on veut être aimé, c'est pas pour qu'on vous bombarde de cadeaux inutiles. Quelqu'un qui vous aime, c'est quelqu'un qui vous écoute, qui vous accueille, qui vous reçoit et qui vous comprend. Et ainsi, cet amour fraternel, eh bien, c'est ce qui bénit toute notre vie. Du début à la fin, c'est ce qui bénit notre relation à Dieu, c'est ce qui bénit notre obéissance à Dieu, ce qui accomplit notre fidélité à Dieu, et c'est aussi cela qui donne notre foi. C'est comme cela que notre religion peut devenir vivante, riche, féconde, et c'est ainsi, comme le dit le psaume, que l'Éternel donne sa bénédiction et qu'il donne la vie pour l'éternité. Amen.